Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, ici Armand Dubois, toujours heureux de vous retrouver à ce rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous accueillons un ancien ministre qui a aussi laissé son nom à un important rapport dans le domaine de la santé. Quelques indices. Élu député pour la première fois en 1976, il a occupé jusqu'en 1985 plusieurs postes ministériels au gouvernement du Québec, y compris la présidence du Conseil du Trésor. Le 15 juin 2000, la commission d'études sur les services de santé et les services sociaux donnait le coup d'envoi à l'une des consultations les plus médiatisées en ce domaine. 7 mois plus tard, le 17 janvier 2001, le rapport était déposé en un temps record car le document, faut-il le dire, suscitait une grande attente. Ce rapport est d'ailleurs encore aujourd'hui une référence en matière de réflexion sur l'organisation des soins de santé. Son auteur est maintenant président et chef de la direction du groupe Senna depuis le 30 octobre 2001. Avec nous, avec grand plaisir, nous accueillons M. Michel Clerc. Bonjour.
Bonjour, M. Dubois.
Effectivement, je parcourais un peu votre carrière en quelques secondes. C'est assez impressionnant comme parcours.
Écoutez, quand je me remémore l'enfant un peu solitaire et élevé à la campagne.
Oui, parce que vous êtes fils de cultivateur.
Oui,
de
oui, moi je suis né à la campagne. Alors, c'est certain que quand je regarde derrière moi le chemin parcouru, disons, je suis satisfait de ma vie professionnelle, de ce que j'ai pu faire comme contribution à la société québécoise. Et ce qui fait encore rire les gens, mais qui me fait rire aussi, c'est que j'ai eu un parcours de vie professionnelle un peu à l'inverse de ce qu'on fait habituellement, à savoir que je suis entré en politique très jeune, j'étais...
Alors qu'on y entre généralement un peu plus tard.
Oui, le profil de la personne qui décide de s'engager en politique, c'est plus une personne qui est bien connue professionnellement, qui est bien engagée dans sa communauté et qui, un bon jour, prend la décision de plonger. Mais il y a quelques exceptions, je n'étais pas le seul, mais des jeunes qui, à un moment donné, décident de s'engager pour des raisons tant sociales que politiques.
Étiez-vous préparé à cela? Parce que en 76, quand vous avez été élu pour la première fois, vous n'aviez que quoi, 26 ans?
J'avais 26 ans. J'étais le plus jeune de la législature de 1976, quand M. René Lévesque a pris le pouvoir pour la première fois.
Et vous n'étiez pas, dit-on, un militant très, très présent. On est un peu venu vous chercher parce que vous étiez avocat à l'aide juridique.
J'étais avocat à l'aide juridique. Je n'étais pas un militant avec panache et engagement visible de premier plan, mais pour la vraie vérité de l'histoire, ouais. Moi, j'ai milité au Parti québécois très jeune. Dès l'élection de 1970, originaire de la campagne près de Drummondville, Saint-Germain-de-Grand-Tam, c'est le marchand général du village qui était candidat pour le Parti québécois,
D'accord. Supporté
par un ami de mon père. Alors, j'ai été très, très jeune dès la campagne
c'était
de 1970.
C'était
tout naturel, venant d'une famille nationaliste à l'époque, alors que je m'engage à 19 ans exactement. Et donc, je n'étais pas un militant de premier plan, mais j'étais effectivement un militant du Parti québécois. Deuxième raison pour laquelle j'étais pas un militant de premier plan, c'est que dès 1973, j'ai rejoint le bureau J'ai en fait ouvert avec un autre avocat plus âgé que moi, le bureau d'aide juridique à Drummondville. Et là, j'avais un devoir de réserve de ne pas militer publiquement, ce que je respectais. Mais par ailleurs, j'étais devenu extrêmement connu, presque à mon insu.
Parce que vous étiez chroniqueur à la radio, vous faisiez ces capsules juridiques, si je ne m'abuse.
Exactement, le premier jeune avocat de l'aide juridique, à ma connaissance, à avoir enregistré et diffusé des cassettes d'informations juridiques, c'est moi. Alors, j'avais donc à la radio de Drummondville, à CHRD, oui, pendant peut-être une couple d'années et un peu plus longtemps dans un journal local également, une chronique d'informations juridiques pour, répondre aux attentes que je ne pouvais satisfaire comme jeune avocat à l'aide juridique, parce qu'il y avait beaucoup plus de demandes que la quantité de services qu'à deux avocats on pouvait offrir.
On va se demander si vous aviez, à cette époque, senti la responsabilité qui arrivait sur vos épaules le 15 novembre 76. Mais auparavant, si vous voulez bien, parce que vous nous l'avez proposé, on va réentendre la chanson thème, finalement, de cette campagne de 76.
Avec plaisir.
Jean Péter et Delphine, revenez chez vous, car vos terres et vos villes ont besoin de vous. Ensemble, on peut le faire, le pays qu'il nous faut, grand comme le grand air et grand comme l'eau.
Les années de silence, on les remplacera par des chants élégants qu'on inventera.
Le temps de l'impuissance ne reviendra jamais.
Une chanson qui nous remonte vite à la mémoire, n'est-ce pas?
Que de souvenirs.
Alors la question, M. Clerc, est-ce que le soir du 15 novembre, vous êtes élu, vous êtes très jeune, est-ce que vous avez senti à ce moment le poids de la responsabilité qui venait de vous tomber entre les mains?
Là? Ah oui, certainement. Dès les premières heures, j'ai eu pleinement conscience de l'ampleur de l'événement politique, social qui venait de se produire, et deuxièmement, de voir aussi tous les espoirs qui étaient placés dans René Lévesque, oui, mais humblement, comme jeune député élu, ouais, dans mon humble personne, l'explosion de joie populaire à ce moment-là, à Drummondville. Je me souviens d'avoir été baladé dans une voiture décapotable le 15 novembre.
Ah oui?
C'est pas nécessairement une journée chaude, une soirée chaude. Alors, je me souviens d'avoir été baladé assis sur le coffre arrière, en quelque sorte, d'une voiture décapotable qui avait sillonné les principales rues des quartiers populaires de Drummondville.
Mais après la fête, les responsabilités.
Mais en même temps que la fête se déroule, il y a comme quelque chose qui commence à naître en soi de se dire « demain, je vais être tout seul ». Et demain, je vais avoir la responsabilité de dire, de faire des choses pour répondre aux attentes de ces personnes-là. Ils n'ont pas voté par négligence, ils ont voté par espérance. Et donc, je vais avoir beaucoup à accomplir pour répondre à ces attentes-là. Alors, c'est sûr que, en même temps que je volais dans les airs quand je suis entré dans une salle où il y avait des centaines de personnes et que je pesais un gros 130 livres.
Mais au moment où...
À l'époque, oui. Alors, sentais la responsabilité, oui.
Mais M. Clerc, au moment où le chantier est vaste, énorme, et que vous n'étiez pas le seul sans expérience politique, est-ce qu'on apprend, permettez-moi l'expression, à la dure, le métier de responsable au sein d'un gouvernement nouvellement élu?
Oui et non. Oui, on l'apprend à la dure parce que c'est un métier qui s'apprend dans les faits, sur le tas, comme on dit. Maintenant, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que quelques personnes m'ont rapidement pris sous leurs ailes. Les deux premières personnes qui m'ont identifié comme ayant un certain potentiel ont été le regretté Jean-Guy Cardinal.
Oui, voilà.
Qui était vice-président de l'Assemblée nationale.
Et issu de l'Union nationale.
Exactement. Et qui, lui, cherchait des présidents de commissions parlementaires. Et Robert Burns, qui était leader du gouvernement, qui tous les deux m'avaient fait venir à leur bureau, me questionner, voir qui j'étais, etc. Et qui m'avaient encouragé à me développer en quelque sorte.
C'est flatteur.
Oui, mais en même temps, eux, ils allaient rapidement, hein, parce qu'ils avaient besoin de jeunes dans le sens de nouveaux députés pour présider des commissions parlementaires. J'étais avocat, j'avais fait du droit social. Alors, ils se sont dit, il a l'air d'avoir une bonne tête, un bon jugement. Une bonne recrue, va de l'avant. Ouais. L'autre personne que je veux mentionner également, avec qui j'avais croisé le fer au début, mais qui a été pour moi un modèle, ça a été Mme Lise Payette. Lise Payette.
Plus tardivement.
Un peu plus tard. Oui, plus tard. 2 ans plus tard.
Pour quelle raison, en 2 mots?
Ben, parce que, après l'avoir confrontée, elle m'a remarqué et elle m'a confié des responsabilités. Notamment, par exemple, le parrainage à toute fin pratique. J'ai parrainé le comité de travail et la défense en commission parlementaire du projet de loi sur la protection des consommateurs. Ce qui était extrêmement formateur et généreux de sa part parce que, en même temps, ça faisait mon école, hein.
On reviendra sur vos fonctions. On va enchaîner avec une autre pièce musicale, une chanson d'un groupe qui a pour nom Chaki d'or, dont l'interprète principal est André Varin. La chanson s'intitule « Un trou dans nos amours » et on pourra peut-être y voir une association par rapport à ce qui est arrivé dans la suite des choses.
Après avoir mis tant de cœur à l'ouvrage et tant d'émotions dans le il me semble tellement dommage d'en avoir brisé le tempo. Je n'ai pas encore, à ce jour, accepté ce trou dans nos amours. Et le refuserai aussi longtemps que mon cœur se
Un trou dans nos amours, est-ce que c'est pas un peu ce qui est survenu au lendemain du référendum pour les jeunes qui avaient mis évidemment beaucoup d'espoir dans l'idée de cette souveraineté ou de ce pays?
Oui, certainement, un trou dans nos amours, une défaite crève-cœur parce que, disons, on avait mis tellement d'espoir, tellement d'énergie à préparer ce référendum-là. Et moi, en particulier, j'avais commencé à occuper des fonctions ministérielles en septembre 79, donc un peu moins d'un an avant le référendum. Et je mettais toute mon énergie, tout ce que je pouvais pour
faire avancer cette cause-là. Mais quand on a, ce que j'allais dire, quand on a un rêve de cette ampleur et qu'il ne se réalise pas, qu'on est jeune, comment trouve-t-on, dans le fond, l'énergie pour poursuivre le travail? Parce que vous avez eu des responsabilités majeures, ministre du Revenu, ministre du Transport, vous avez été aussi président, je le mentionnais, du Conseil du Trésor. Il faut continuer le travail quotidien.
Ben moi, l'énergie était très rationnelle, hein, parce que sitôt la défaite absorbée, l'analyse n'a pas été difficile à faire de dire, je veux pas que le Québec recule à cause de la perte d'un référendum. Donc, il faut continuer à faire la promotion de cette idée-là et surtout continuer à créer, semer de la confiance en eux-mêmes chez les Québécois si on veut qu'ils puissent poursuivre leur chemin, quel que soit leur choix politique constitutionnel qu'ils feront, mais de le faire avec fierté et non pas avec humiliation.
Mais vous vous en êtes, dis-je bien, distancé au plan politique pour occuper davantage le champ de l'intérêt public. Vous avez été, entre autres, à Hydro-Québec. Vous avez été président, je pense, d'un organisme sur les centres d'hébergement.
Oui, mais ça, c'est après, longtemps après, parce qu'après le référendum, en 1980, il y a eu l'élection de 81, la réélection du Parti québécois. Et pour moi, personnellement, je vous dirais, la maladie de M. Lévesque dans son deuxième mandat, son décès prématuré après la défaite de 1985, et l'échec du référendum de 1980, pour moi, personnellement, comme être humain, ça a été un deuil extrêmement pénible à faire. Et tout ça, c'était vécu, pour moi, un peu comme un tout. Donc, un trou dans nos amours, une défaite ou un sentiment de ne pas avoir accompli ce que l'on espérait accomplir et aussi ce que tant de personnes espéraient qu'on accomplisse.
Qu'est-ce que vous retenez particulièrement de cette époque? Est-ce que c'est cette blessure dont vous venez de faire part ou c'est l'énergie quand même qui était toujours palpable malgré tout pour faire avancer les choses?
Deux choses. Une tristesse de ne pas avoir pu réaliser ce rêve, qui est un rêve à la fois émotif, je dirais, sentimental, politique et économique, mais en même temps, une très grande fierté que, quand je regarde 30 ans, 32 ans après 1976,
oui, ça va vite.
32 ans plus tard, le chemin incroyable que le Québec a parcouru et, en grande partie sur la base de l'énergie qu'on a déployée malgré la défaite après 1980.
Alors, un baume sur tout cela, une chanson interprétée par Louis Quillico, chanson de Luigi Denza. Luigi Denza est un compositeur décédé au début du 20e siècle qui a composé à peu près 500 chansons italiennes et des chansons vraiment presque siciliennes. C'est l'histoire d'un amoureux qui essaie de courtiser sa blonde et qui lui dit de revenir. Alors, du trou de nos amours, nous allons maintenant vers l'amour tentant d'être retrouvé.
Avec plaisir.
Sento l'alito tuo nei fior del prato e vengo gli occhi tuoi negli astri a sera. Di te, solo di te, viene il creato.
Quand même jolie, la belle voix de Louis Quillico.
Extraordinaire.
Avec nous donc aujourd'hui, le ministre d'autrefois, Michel Clerc, qui a occupé des fonctions ministérielles dans le cabinet Lévesque et dans le cabinet Johnson aussi, je crois.
Également, oui.
Donc, on quitte la politique. Vous restez quand même dans le champ de l'intérêt public parce que vous avez présidé aux destinées du défunt conseil, je pense, des centres d'hébergement, c'est exact?
Oui, la Confédération québécoise des centres d'hébergement et de réadaptation qui, depuis, a été fusionnée dans ce qu'on peut appeler là, aujourd'hui l'Association québécoise des établissements de santé et des services sociaux
et qui a pris la relève de l'AHQ.
Exactement.
L'Association des hôpitaux du
Exactement.
Québec. Par la suite aussi, vous êtes allé dans les hautes sphères d'Hydro-Québec.
Oui, et au niveau du gouvernement, je suis retourné également en 1994 au gouvernement du Québec, cette fois-là comme sous-ministre.
Aux richesses naturelles.
Exactement.
Voilà.
Ce qui était le choix, si on peut dire, la seule fois que j'ai eu un portefeuille que j'avais désiré.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, parce que les autres fois, M. Lévesque, quand il m'a, disons, assigné au ministère du Revenu d'abord, au Transport, au Conseil du Trésor, à chaque fois, j'avais été très, très surpris de
Mais
sa
Mais on peut
décision.
Pas dire non à un monsieur Lévesque.
Non. Alors, j'avais fait valoir mon intérêt cependant auprès de Pierre-Marc Johnson pour le domaine de l'énergie-ressources. J'y suis resté, trois, quatre mois comme ministre dans le court gouvernement Johnson. Et par la suite, donc, j'avais gardé le rêve de ce domaine d'activité-là. Et quand M. François Gendron, un ami de très longue date maintenant, qui est toujours à l'Assemblée nationale, a été nommé par M. Parizeau au ministère des Ressources naturelles. Alors, j'ai eu une invitation d'aller sous ministre en titre pour lui. Et j'adore ce domaine d'activité-là.
Même si vous étiez loin de l'action plus vivante du politicien?
Ah oui, moi...
Un rôle plus effacé quand même.
Oui, tout à fait. Et maintenant, disons, personnellement, moi, la défaite électorale en 1985, n'a pas été aussi difficile à accepter que la défaite référendaire. Pour moi, je me suis dit, c'est un signe de la vie. J'avais fait donc une dizaine d'années déjà
Vous aviez déjà donné, donc.
J'avais fait ma contribution et je n'étais pas... j'ai jamais tellement aimé le style de vie des personnes politiques très médiatisées, avec des agendas de fous et beaucoup, beaucoup de pression humaine
est-ce
sur soi.
Est-ce si difficile qu'on le dit?
Ah oui, moi, j'ai trouvé ça difficile. Personnellement, le côté vie publique des personnes engagées en politique, hommes et femmes politiques, pour moi, là, j'ai beaucoup d'admiration, sans égard à l'étiquette politique, pour tous ceux qui décident de s'y engager, parce que c'est extrêmement exigeant personnellement.
Il faut vraiment faire une pause dans sa vie privée, dit-on?
Oui, oui. C'est très difficile. Il faut accepter de grands sacrifices dans sa vie privée. Et moi, j'ai toujours dit, il y a deux belles périodes, dans le fond, pour faire de l'action politique active. Soit avant 32-35 ans, quand les enfants sont bébés ou qu'il n'y a pas d'enfants, ou après 55 ans, quand ils sont adultes et qu'ils peuvent voler de leurs propres ailes.
Pour préparer sa retraite.
Ouais. Alors, mais c'est très exigeant.
Est-ce que de ce fil conducteur, qui est celui de l'intérêt public, vous étiez déjà imaginé, lorsque vous étiez jeune, avant même de faire de la politique, que ce serait là votre champ d'action? Parce que, comme avocat, on s'imagine, j'imagine, au départ, être plus dans la sphère du privé, la défense de clients, et pourtant, ce n'a pas été votre parcours.
Vous avez raison. Moi, comme enfant, jeune enfant, je rêvais d'être cultivateur, de travailler avec mon père sur la ferme. Et pire, je voulais pas aller à l'école. Je voulais pas me faire instruire. C'est vraiment...
Vous étiez rebelle?
Non, un peu plus sauvage, plus solitaire que rebelle. J'étais bien avec mes chats, mes chiens, les veaux, les vaches, les cochons, la famille, mon père travaillait sur la ferme. Alors, ça a été une grande surprise pour lui. D'ailleurs, il est décédé, mon père, mais il m'a toujours dit que la plus grande surprise qu'il avait eue dans sa vie, ça avait été d'une part que je me fasse instruire, puis d'autre part que je fasse une vie publique. Mais c'est probablement venu progressivement par l'engagement social qui m'a conduit à l'engagement politique.
Mais une déception pour papa-maman, probablement?
Non.
Non?
Non, au contraire. Je pense qu'ils ont toujours été très, très fiers de moi.
Non, mais papa... au plan de la survie de la ferme.
Ah oui, mais papa, papa aurait bien aimé, mais en même temps, je pense qu'il était très fier de moi.
Sans aucun doute.
Maintenant, c'est certain que le goût pour la vie publique qui m'est venu de la politique ne s'est pas éteint avec, je dirais, l'assèchement du plaisir de faire de la politique partisane. Mais au contraire, que ça a été du côté de la Confédération des centres d'hébergement ou au ministère comme sous-ministre ou chez Hydro-Québec ou à la Commission, ma conviction était profonde qu'il y a bien des façons à la fois de bien gagner sa vie et d'être utile à la société tout en ayant un impact public mais sans avoir à vivre les inconvénients,
les inconvénients
de la vie des hommes et des femmes politiques.
C'est comme les saisons, il y a l'été, mais il y a aussi l'hiver qui est parfois très, qui apporte son lot d'inconvénients. Vous avez choisi cette chanson de Monique Lérac, pourquoi?
Ah, Monique Lérac, l'hiver, ça évoque pour moi ma jeunesse, l'amour de l'hiver que j'ai toujours eu, les grands espaces blancs de la campagne, derrière la maison chez nous, quand on allait avec mon père et les chevaux dans l'hiver, aller faire les activités de la ferme, quoi. Alors, pour moi, ça évoque des beaux moments et la vitalité qu'il y a dans l'hiver. Pour plusieurs personnes, l'hiver, ça peut être une saison morte. Moi, je ressens beaucoup de vitalité dans l'hiver.
Ah, que les temps s'abrègent. Viennent les vents et les neiges, viennent l'hiver en manteau de froid, viennent l'envers des étés du roi, même le roi n'aura point.
je suis les lacs, les bois, les mers, les champs, les villes, plus haut que les plus hauts jeux du soleil qui dort immobile. Nous irons par les chemins secrets de l'univers pour y vivre le pays qui nous appelle à ciel ouvert. Hors du temps, au gré de l'espace, fiers de nos corps plus beaux, éternels comme froids et glaces, seuls comme des oiseaux. Vienne la blanche semaine, ah, que le temps ramène l'hiver.